Joy Division sur Radio Campus Lille. Transmission, c'est le titre donc de cette chanson, un titre choisi par notre invité qui s'appelle Christophe Cellier. Bonjour Christophe.
Bonjour René, comment vas-tu ?
Heureux de vous accueillir, cher ami.
Merci beaucoup.
Alors, j'imagine que la transmission, il va en être question dans cette séquence, puisqu'on va parler donc du campus des métiers et des qualifications images et design des Hauts-de-France. Donc là, il est évidemment question de transmission, peut-être aussi d'innovation.
Exactement, et l'idée, c'est qu'on puisse présenter aux auditeurs ce qu'est le campus des métiers et des qualifications d'excellence images et design.
Alors, tout à l'heure, on a fait une séquence consacrée aux services privés, on va dire, aux initiatives privées. Là, on est dans le service public.
Oui, clairement. En fait, les campus des métiers et des qualifications ont été mis en place dès 2014 par un décret qui concerne en fait la réforme de la voie professionnelle, qui permet effectivement aux étudiants et aux apprenants du bac pro au doctorat de choisir leur parcours et d'évoluer. Et ça s'adresse aussi bien aux formations initiales qu'aux formations continues. Donc là, on est véritablement sur un spectre très large et un public très important en termes au niveau de la région des Hauts-de-France.
Donc un spectre très large, mais un champ, on va dire, de thématiques assez précis.
Oui, car en fait, il existe 13 campus des métiers et des qualifications dans les Hauts-de-France, chacun en fait attaché à une filière professionnelle. Et en l'occurrence, le campus Images et Design s'intéresse aux métiers et aux qualifications de l'image et du design.
Quels sont les lieux d'enseignement où se passe cet enseignement? Quels sont les domaines et peut-être aussi les villes concernées?
Alors initialement, le campus donc, a été créé en 2015 et ne s'appelait pas Campus Image Design, mais Campus donc, Image Numérique et Industrie Culturelle. Et il a changé de nom à l'occasion de l'île capitale du design. Donc il s'est intitulé Campus Image et Design à cette occasion. Donc initialement, on était véritablement sur l'économie de l'image et du numérique qui s'est étendue au design et qui correspond effectivement à un besoin et également en fait une réalité du terrain. Et quand tu parles de localisation de l'activité et des formations, initialement, nous étions davantage concentrés sur la métropole lilloise et notamment Roubaix-Tourcoing. Et après, cette nouvelle appellation, donc Campus Image et Design, le campus s'est étendu à l'entièreté du territoire des Hauts-de-France.
Voilà, donc on va dire qu'il y a votre base qui est une base, comment on peut dire, d'accompagnement ou de mise en réseau?
Alors pour définir ce qu'est un campus des métiers des qualifications, c'est avant tout un réseau de membres et de partenaires, que ce soit en fait des établissements de formation, des entreprises, des collectivités, des structures, des associations. Donc tout cet écosystème travaille ensemble pour apporter des idées. Donc l'idée, c'est que les campus des métiers des qualifications vont être portés par la filière professionnelle. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est-à-dire en fait l'insertion professionnelle des étudiants, des apprenants, assurer en fait la sécurisation des parcours, faire en sorte qu'un étudiant qui entame une formation soit assuré d'un emploi à la fin. C'est formé, mais pour quel métier? Donc on est vraiment sur des questions très prioritaires. Et l'autre, comment dire, l'autre axe qui est vraiment très important, c'est l'égalité des chances. Faire en sorte que, quel que soit en fait l'origine des personnes, qu'elles soient sociales ou autres, effectivement qu'elles aient la même chance de formation, la même offre de formation, quel que soit leur niveau de ressources également, car clairement aujourd'hui on est confronté à une grosse problématique de ressources et de précarité. Les campus sont là pour répondre à ces questions d'urgence et travailler avec les partenaires. Chaque campus est associé à un établissement support. En ce qui concerne le campus des métiers image et design, nous sommes associés à l'ESAT. L'ESAT est notre lycée support. Et c'est Madame Vandenberg, qui est la proviseure de l'ESAT, qui est donc la présidente du campus Image et Design.
Quand on veut préparer des élèves, des étudiants à des métiers, hein, en l'occurrence là aussi, on a une partie évidemment en formation générale qui permet aussi d'évoluer par la suite, de se raccrocher peut-être à d'autres branches. Comment on peut prévoir d'intégrer des étudiants à la fin d'un cursus d'études et qu'ils puissent après suivre, on va dire, au travers de sa carrière professionnelle, des évolutions liées à la société?
Alors, là, en fait, on entre dans une dimension qui est récente, mais qui a été abordée par le ministère de l'Éducation et de la Recherche, qui est notre ministère de référence. L'idée, c'est de colorer les formations existantes. C'est-à-dire, la coloration, c'est quoi? C'est quand il y a une demande précise des entreprises ou d'un secteur d'activité, il s'agit de faire évoluer les formations dans le sens, effectivement, des urgences, et notamment qu'elles soient dans la réduction de la fracture numérique ou dans de nouveaux process de production, de compréhension de l'industrie. Là, récemment, en fait, la région nous a fait part de sa volonté de réindustrialisation, donc développer l'attractivité des métiers de l'industrie auprès des jeunes. Et l'image et le design pourraient devenir des leviers intéressants pour justement transformer non seulement la vision de l'industrie, mais aussi rendre l'industrie plus accessible, ou en tout cas rompre avec un imaginaire qui peut paraître associé à la pénibilité du travail. Donc faire en sorte que le design et l'image puissent non seulement être des vecteurs de communication, mais aussi des vecteurs de transformation. Donc là, on est dans un système de pensée différent. Auparavant, on ne parlait que d'image, mais là, en fait, on parle de design, ce qui veut dire en fait des process et une manière de penser autrement.
Alors, j'ai eu l'occasion de faire un grand reportage au campus des métiers du bâtiment public. Et c'est à Bruay-la-Bussière que se trouve ce campus.
Avec Ingrid.
Alors, J'ai passé un moment assez extraordinaire à découvrir des métiers. Franchement, je ne les connaissais pas trop avant. Et voir l'implication, évidemment, des personnes qui travaillent dans ce lieu. Et aussi les entreprises qui étaient à la recherche. Il y a des métiers en tension dans le BTP.
Oui.
Est-ce que vous ressentez dans votre domaine des métiers en tension? Est-ce que vous y faites face? Est-ce que vous y préparez justement ces élèves pour les besoins qui vous seraient signalés? Est-ce qu'il y a des besoins bien identifiés?
Je vais prendre un exemple très concret qui se trouve au lycée Giraud-Sagné Saint-Martin-Boulogne. Donc c'est juste à côté de Boulogne, c'est dans l'agglomération de Boulogne. Ce lycée en fait propose une formation MP3D donc, qui forme des professionnels de l'impression 3D. Et juste à côté de cette formation, dans le lycée même, il y a une formation tourneur-fraiseur. La formation tourneur-fraiseur, donc, c'est lié à un métier en tension. Et effectivement, les étudiants boudent un peu cette formation, car en fait, elle est connotée industrie. Et l'idée, c'est qu'avec l'équipe du lycée Giraud-Sagné, nous allons travailler à rendre plus attractive cette formation en l'associant avec l'impression 3D et également des technologies de frittage, ce qui en fait appelle des manipulations de machines numériques, qui rend en fait le métier différent en termes de perception, mais identique par rapport à l'exigence des professionnels. Donc l'idée, c'est effectivement de travailler l'image de la formation, les contenus de la formation, tout en respectant en fait les compétences et en développant les compétences.
On parle beaucoup actuellement de perte de savoir-faire, des savoirs qui disparaissent, qui vont à l'étranger, etc. Et après, quand on en a besoin en France, on ne les retrouve pas. Est-ce que justement, le fait d'aller toujours de l'avant vers des nouvelles technologies, par exemple, ça ne nous fait pas oublier un peu des métiers qui sont encore utiles, qui risquent un peu de disparaître?
Alors oui, on pourrait faire ce constat où l'intelligence artificielle tendrait en fait à remplacer l'intelligence de la main. C'est-à-dire que finalement, le contact avec la matière se fait de plus en plus distant. Les machines s'interposent en fait entre l'opérateur et le résultat final. Et même parfois, il n'y a pas d'humain du tout. Et le process se fait sans humain, de A à Z. On n'en est pas là. C'est-à-dire qu'il y aura toujours le besoin d'un contact avec la matière, ne serait-ce que pour la manipuler, pour comprendre ses limites, pour comprendre ses potentialités. Et il faut du temps pour ça. À savoir que les savoir-faire, ce ne sont pas des choses qu'on peut valider en fait en un temps record. Il faut vraiment plusieurs années avant effectivement d'acquérir une compétence. Là, je ne parle pas d'artisanat, mais je parle de design. Et cette compétence, elle se fait par une approche pragmatique et pratique. Et cette dimension pratique ne peut pas être exclue. Et c'est pour cette raison que le tout numérique ne peut pas être envisagé totalement.
J'ai eu l'occasion d'aller visiter la cité de la dentelle et de la mode à Calais. Hein. Et là, il y a des machines assez étonnantes qui datent du 19e siècle, anglaises peut-être pour la plupart.
Les machines Leavers.
Ouais, qui produisaient de la dentelle industrielle, on va dire. Et donc, ces machines, elles sont toujours là, bien entretenues. Il y a très peu de gens qui sont formés actuellement pour les faire fonctionner. Il n'y a que 2 personnes en apprentissage en ce moment. Et pour en avoir discuté un petit peu avec le directeur de S-Mode il n'y a pas longtemps, effectivement, lui, il disait, 2, c'est mieux que pas du tout. Mais voilà, donc c'est vrai que souvent, ces métiers sont liés à des économies du business, on va dire. Comment on trouve le ratio entre le business qui permet de faire de la valeur ajoutée ou de vendre et de peut-être redistribuer, ruisseler, et l'approche purement, alors, je ne vais pas dire intellectuelle, mais de formation large en culture qui permet d'évoluer par la suite, quel que soit le métier qu'on fait, et dont on pourra peut-être changer si le besoin s'en fait sentir.
Alors, là, je rebondis sur la fin de ton intervention concernant les reconversions. Il y a plusieurs types de reconversions, notamment dans le domaine des ICC. Là, en fait, en parlant des métiers dont l'activité est associée à l'industrie et également en fait à la pénibilité, on a comment dire, les maladies du travail qui sont liées en fait à l'usure physique des personnes qui travaillent sur ces machines et qui à un moment donné en fait vont chercher une reconversion parce qu'en fait physiquement elles ne sont plus en capacité d'assurer ces gestes. Ce qui est vrai notamment pour l'artisanat, ce qui est vrai pour des métiers où il faut porter des charges. Donc là, on est véritablement sur des questions de reconversion liées à ces pénibilités. Le campus Image et Design propose à présent une réflexion sur les 40-64 ans, à savoir les personnes qui sont en situation de reconversion et de trouver d'une manière intelligente comment capitaliser sur les compétences qu'ils ont pu développer. Donc, ne pas perdre en fait les acquis en fait et trouver en fait des pistes pour la reconversion. Ensuite, par rapport à ce que tu dis sur les métiers leavers, c'est le fait qu'il y ait peu de personnes qui reprennent le flambeau parce qu'en fait ben, la demande est faible, hein, il faut aussi le reconnaître et la concurrence est forte du côté comment dire des pays d'Asie du Sud-Est où la production est très très importante. L'idée est là, c'est qu'en fait, on est sur un marché globalisé et mondialisé. Et quand tu parlais de marché, c'est une économie mondiale, en fait, en réalité. Par contre, on peut parler de réussite locale et auquel cas, on peut penser à des scopes qui seraient, en fait, quelque part, des alternatives possibles pour des activités de niche. On sait très bien que la dentelle de Caudry ou de Calais, ce sont des dentelles associées au luxe. Généralement, en fait, on les voit apparaître, ben, je pense au Met Gala, qui a lieu chaque année au musée new-yorkais très connu, qui va effectivement faire une démonstration d'un savoir-faire de la mode et notamment des matériaux, des textiles relativement luxueux, comme la dentelle, pourquoi pas, qui serait en fait une forme de vitrine. Mais on sait très bien que ça ne concerne qu'une dimension très, comment dire, très spécifique, ouais, très pointue. Par contre, je reviens sur l'idée de la reconversion. Cette reconversion, donc, je disais qu'elle était en fait associée d'une part à des problèmes de, comment dire, physique, mais il y a également un autre phénomène qui est tout à fait récent et qu'on a pu envisager avec le RTN, c'est le réseau thématique national des ICC qui rassemble tous les campus image et design en France, on est 13 en tout, c'est qu'à la fin de 35 ans, les personnes se trouvent être un peu poussées à la porte des agences et des studios par le fait ben justement d'un problème générationnel, donc clairement, d'autre part pour un problème de compétences et d'actualisation des compétences, d'usure, de fatigue. Et ces 35-64 ans, il faut vraiment leur trouver quelque chose afin de poursuivre une carrière. Certaines écoles proposent à leurs alumni, donc en fait leurs anciens, de revenir en formation continue pour être actualisés en termes de compétences, mais pas forcément dans les métiers pour lesquels ils avaient été formés initialement, mais voire sur des métiers de marketing, de commerciaux, ce qui leur permet de rester en fait dans le domaine tout en ayant en fait une autre pratique, en tout cas de ses activités.
Voilà, et peut-être aussi de créateur d'entreprise.
Exactement. Donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse penser à une seconde vie en termes de carrière, et on sait qu'aujourd'hui, une carrière n'est pas unique, elle va être multiple. Et c'est aussi le message que le campus souhaite faire passer, c'est que pour les jeunes qui commencent une formation, il faut s'attendre qu'il y aura plusieurs carrières, différents métiers, peut-être dans le même domaine ou dans différents domaines.
Alors actuellement, on pense à des évolutions quant à la durée du travail en termes d'années. Hein. On est arrivé, je ne sais plus, à 64 là.
Pour l'instant.
Pour l'instant, mais en évolution. J'ai quand même lu les statistiques liées, par exemple, aux soudeurs. Quand on est soudeur, la moyenne de décès, de l'âge de décès, c'est 60-65 ans.
Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, la nature même du travail va influencer, comment dire, notre manière de vivre et aussi notre espérance de vie.
Alors justement, pour ces métiers difficiles, qui devraient sans doute être mieux payés déjà, hein, parce qu'ils sont en tension, on comprend quand même pourquoi. Puis il y a aussi cette échéance peut-être des accidents ou des maladies professionnelles. Hein. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'au bout de 10 ans, 15 ans, on ne puisse pas proposer à ces personnes qui ont eu des métiers durs physiquement d'apprendre d'autres métiers par rapport à ces métiers du design, etc., ils pourraient trouver une nouvelle énergie.
Clairement, et je pense que là, on est arrivé en fait à un seuil où il faut penser en termes de mutualisation des compétences, mais aussi de transversalité. C'est-à-dire qu'en fait, sur quel terrain en fait, on va travailler pour que des personnes issues du bâtiment, que tu citais tout à l'heure, puissent s'intéresser en fait à la partie design. En ce moment, en fait, le campus Image Design développe un projet avec l'AMI CMA qui a été initié par l'ENSI Les Ateliers, et c'est un projet autour du BIM. Le BIM, c'est la modélisation numérique des bâtiments, et on pourrait tout à fait imaginer quelqu'un qui a fait une carrière dans le bâtiment associer en fait ses compétences et s'initier en fait à ces techniques numériques pour pouvoir justement poursuivre dans le bâtiment, mais autrement. Et ça, ce serait effectivement très intéressant de le mettre en place.
Voilà, donc on va dire que ta mission est large, elle est étendue aussi géographiquement, enfin à l'échelle du territoire régional, il me semble, hein, et vous êtes en lien fort avec le rectorat de Lille.
Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que chaque directeur opérationnel, nous sommes sous une double gouvernance, quelque part. Nous avons comme employeur la région académique qui se situe à Lille, mais qui couvre à la fois l'Académie de Lille et d'Amiens. Donc on est sur le versant nord et le versant sud. Et l'autre gouvernance, c'est la région des Hauts-de-France. C'est-à-dire que nous travaillons avec cette région pour justement développer et proposer des innovations en termes de formation et suivre également ce qu'on appelle la stratégie régionale qui est développée par rapport au SRESRI et qui est présentée chaque année, ainsi que le COSTRA qui est en fait initié par notre rectrice. Le COSTRA, c'est le comité de stratégique qui définit en fait nos axes prioritaires.
Est-ce qu'il y a des projets qui sont fixés à 5 ans, par exemple ?
Alors oui, nous, on nous demande tous les 4-5 ans de relabelliser le campus. C'est-à-dire qu'en fait, un campus, ce n'est pas une structure qui est éternelle. Il faut qu'elle soit validée, il faut qu'elle soit relabellisée. Et c'est tout un parcours qui permet effectivement de poser les axes thématiques, donc les axes forts qui sont posés sur 4 ou 5 ans. Donc là, je peux déjà en fait vous évoquer quelques axes qui seraient en fait éclairants par rapport aux priorités du campus. Et donc là, en fait, c'est ce qu'on va déposer pour la période 2025-2030. La première question, c'était de comprendre l'évolution des ICC. C'est-à-dire qu'en 2016, Aurélie Filippetti, en fait, qui était ministre de la Culture, avait commandité une étude pour justement connaître l'impact des ICC au niveau en fait, de l'économie française. Et il s'avère qu'on était à 4 points du PIB, donc c'était quand même relativement conséquent.
Donc on va dire ICC, industrie culturelle et créative. Et créative.
Voilà, autant pour moi. Ensuite, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu une grande commission qui réunissait en fait trois ministères, le ministère de l'Éducation et de la Recherche, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Économie. C'était en 2019, c'était les Assises du Design. Et donc, à ce moment-là, s'est posée la question de l'impact du design dans la société et dans les industries. Donc, il y avait un plan ambitieux qui réunissait à la fois le côté industriel, le côté culturel et le côté formation. Et de cela, en fait, est née donc la PCI, donc l'Association pour la création industrielle, qui a permis de définir les contours, en tout cas d'une politique nationale, et qui permettait effectivement d'y voir d'une façon plus claire sur les enjeux du design en France. Alors, il faut savoir que le design en France, c'est une chose toute récente. C'est grâce en fait au Centre Pompidou que le design a été diffusé en France en termes de culture. Et auparavant, en fait, on ne parlait pas de design, on parlait d'esthétique industrielle, ce qui nous a un petit peu causé quelques torts, et notamment sur la compréhension de ce qu'était le design. Souvent, en fait, quand on demande à une personne dans la rue, on lui dit bah, « qu'est-ce que c'est pour vous le design ?» Elle nous répond que c'est un style. Or, le design n'est pas un style, c'est une méthode, c'est un système de pensée, c'est tout un process. Et donc là, en fait, clairement, notre mission, c'est à la fois du réseau, donc fédérer des entreprises, des structures de formation et des partenaires. Mais nous avons également une mission qui consiste à clarifier ce qu'est l'image et le design. Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur les axes thématiques, le premier axe, c'était par rapport à l'image. Aujourd'hui, on assiste à une offre qui est supérieure à la demande, à un nombre exponentiel de plateformes qui nous proposent en fait des contenus très variés. En fait, on a l'embarras du choix et clairement, en fait, une vie ne suffirait pas pour absorber toutes ces informations. Et ce qui se produit, c'est une fragmentation de l'audience, c'est-à-dire que les personnes vont choisir par silo, donc par rapport à leurs affinités, par rapport en fait à leur communauté, et on assiste à une fragmentation de l'audience qui va rendre beaucoup plus compliquée la projection de recettes, à savoir que finalement, les personnes qui s'en sortent le mieux, eh bien, ce sont les grandes plateformes qui vont être des prestataires de services et qui vont créer en fait des formes d'abonnement, qu'on connaît bien, et qui vont être la ressource essentielle finalement de cette économie, mais qui est très peu redistribuée auprès des auteurs. Et au niveau international, on a un gros problème en termes de droits d'auteur. En France, nous sommes une exception en fait, dans le monde, parce qu'en fait, on est quand même très, on a à cœur de vouloir redistribuer d'une façon équitable, en tout cas, les dividendes. Et par contre, ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Donc, on a une exception culturelle en France. Et en France, on est les seuls à utiliser l'expression « industrie culturelle et créative ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'étranger, on parle d'industrie créative, tout simplement. Et la culture n'est pas citée, en tout cas, n'est pas un élément déterminant. Donc ça, c'est intéressant à questionner. Et nous avons en fait une singularité à mettre en avant. Et il faut nous appuyer sur cette singularité, donc cette valeur culturelle, pour justement ne pas la défendre uniquement sous une forme marchande, mais également sous une forme, de partage, de transmission des savoirs.
De patrimoine, d'ailleurs.
Exactement.
Voilà, donc on comprend l'étendue et la richesse de ce projet, donc pour les 5 prochaines années, si j'ai bien compris. Qui intègre ce projet en cours de route, là ? Est-ce que vous avez des ressources nouvelles de gens qui disent « moi j'aimerais bien, maintenant que le projet se redéfinit, ça m'intéresse peut-être davantage qu'avant » ou que un autre dans lequel j'avais pensé m'intégrer ?
En réalité, le campus Image & Design, tel qu'il est défini depuis mon arrivée, en fait, parce que finalement j'ai pris mon poste en janvier 2024, c'est tout récent, la première étape c'était l'observation, ce qui semble naturel, et après avoir observé, rencontré les différents acteurs, parcouru le territoire, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient déjà engagées dans des actions. C'est-à-dire qu'en fait, le campus n'est pas là pour réinventer les choses. Il faut en fait identifier déjà ce qui existe. Et ça, c'est déjà pas mal comme travail. Donc si une structure est engagée dans un domaine ou dans un autre campus, voire dans un autre dispositif, il n'y a aucune impossibilité à ce qu'ils rejoignent le campus Image & Design, à savoir que si ces personnes souhaitent nous rejoindre, c'est volontiers qu'on les accueille. Et on n'est pas du tout sur l'exclusivité d'un partenariat.
Voilà, donc votre campus qui s'adapte aussi à de nouvelles opportunités ou pas ?
Alors, de nouvelles opportunités, oui. L'une de celles que je souhaiterais parler aujourd'hui, c'est une opportunité qui s'est créée par la rencontre. Et c'est là où on s'aperçoit qu'on ne peut pas tout prédéfinir à l'avance. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des schémas directeurs, mais clairement, c'est la rencontre qui est déterminante. Alors moi, je dois cette rencontre à Perrine Puip, qui est donc la responsable du bureau des entreprises du lycée Giraud-Sagnier que j'ai cité tout à l'heure. Et nous allons développer un projet d'exosquelette cinétique qui va associer en fait à la fois des éléments technologiques, mais également de danse, puisqu'en fait, dans ce lycée, on a une option art et danse. Et c'est au cours des discussions qu'on a pu échanger et on s'est rendu compte que la technologie pouvait tout à fait se marier à un projet d'ambition culturelle et créative. Et en l'occurrence, le technologique s'efface par rapport en fait aux besoins de la chorégraphe. Et ça, c'est vraiment très intéressant de voir qu'une discussion qui dure 10 minutes, 15 minutes, peut changer complètement en fait un regard, une projection.
C'est vrai que les exosquelettes, on les voit dans beaucoup de domaines. J'ai pu rencontrer ça au salon de l'agriculture à côté d'Arras, là, et des gens enfin une société qui propose des exosquelettes aux personnes qui traient les vaches, par exemple. Et puis il y a Exotech aussi dans la région lilloise, hein, qui produit des prolongements du corps pour aider des personnes en difficulté. Et donc on sent les besoins, et peut-être par rapport à des métiers pénibles aussi, aider ces gens à pouvoir travailler plus longtemps, mais à se sentir mieux au travail déjà.
En fait, ce projet d'exosquelette cinétique est lié au fait de développer l'agilité. Développer l'agilité du danseur ou de la danseuse. Et on est sur un projet de performance créative. Oui.
Alors c'est vrai que c'est d'où l'intérêt de culture et design. C'est là on a cette dimension culturelle qui est aussi une forme de partage avec des gens, peut-être plus facile, sinon différente que celle avec des technologistes.
En réalité, récemment, j'étais donc au syndicat UIMM, UDI Metal, qui regroupe en fait les industries du métal dans les Hauts-de-France. Et ils ont deux sièges, un à Amiens et l'autre à Hénin-Beaumont. Et ce sont des personnes qui, a priori, n'ont pas de rapport direct avec le monde de la culture et de la création, mais en réalité, on s'aperçoit que si. C'est-à-dire que le design industriel a pour vocation, justement, de développer la créativité, mais autrement que ce à quoi on était habitué. C'est-à-dire qu'en fait, la création n'est pas du tout l'exclusivité des designers ou des créatifs visuels. Et je m'en suis rendu compte en parlant avec eux. Ben, c'est toujours la rencontre, en fait, finalement. Et c'est là où ce travail de directeur opérationnel me permet de rencontrer beaucoup d'intervenants, beaucoup de personnalités, de sortir un peu du champ initial pour être à l'écoute et me dire ben, on peut assembler une collaboration avec cette structure autour du métal, de l'industrie du métal, et travailler sur un projet de design, et travailler sur un projet d'image. Et tout ça peut prendre forme, et ça fait sens. Et c'est ça l'intérêt. Et ça fait sens non seulement pour moi, mais surtout pour les acteurs auxquels je m'adresse, et aux étudiants et aux apprenants pour qui on travaille.
La région, au sens large, hein, investit beaucoup dans la culture. On est dans un bain culturel, enfin, pas seulement à Lille, hein, mais dans beaucoup de villes. Et au final, on se dit que ce bain culturel peut amener des gens à avoir de l'imagination, ce qui est peut-être moins facile dans des pays autoritaires, par exemple, et que ça peut être une force à condition de faire les bonnes connexions pour faire avancer des projets communs.
Oui, et en fait, au niveau des projets communs, là, tu parles du champ culturel. Donc là, je rebondis sur un projet sur lequel on travaille. On a posé un premier postulat. C'est France Design Week, qui est un événement qui a lieu chaque année. Et localement, en fait, dans la région des Hauts-de-France, il est représenté par Margherita Balzerani, qui est donc la directrice du Louvre-Lens-Vallée. Alors, le Louvre-Lens-Vallée, c'est l'incubateur qui se trouve à côté du Louvre-Lens et qui accueille des entreprises associées au domaine de la culture, de la muséographie. Et cette année, en fait, le thème de France Design Week, c'est utile. Donc, c'est la notion d'utilité. Et la manière dont on s'est emparé du thème, c'est, moi, j'ai discuté avec les différents acteurs du campus pour savoir qui souhaitait présenter quelque chose. Et à un moment donné, le lycée Édouard Branly d'Amiens, donc avec sa section de DNMA de graphisme, souhaitait interroger en fait les archives à l'occasion du bicentenaire de la photographie porté par la Maison de la Photo ici dans les Hauts-de-France, donc bicentenaire qui commencera en 2026, et avec des images d'archives de villages disparus de la Somme pendant la Première Guerre mondiale. Donc là, on était sur une problématique. Comment être passeur de mémoire par rapport en fait à ces éléments qui ont disparu et qui ont été des zones victimaires en fait hein, quelque part. Et au fur et à mesure des rencontres, j'ai demandé à Ludmila Postel, qui est donc la directrice de New Atlantis, qui est une entreprise qui développe un métavers. Je voulais voir avec elle s'il était possible d'intégrer en fait un projet de reconstitution, non pas complète, mais en tout cas une mémoire de ces villages disparus de la Somme dans un espace virtuel. Et donc Ludmila se trouve d'ailleurs en incubation à la Pleine Image, hein, œuvre créative. Donc ça fait le lien. Et ensuite, une autre société que j'avais rencontrée il y a quelques années et qui se développe bien aujourd'hui, Olusion, qui est une entreprise qui développe des hologrammes, mais surtout aujourd'hui, elle développe des modélisations en 3D d'architecture et notamment du patrimoine, notamment des cathédrales, des églises, des bâtiments qui font partie de la culture commune. Et donc, l'idée, c'était de travailler avec eux sur comment on peut travailler avec des lycéens, des étudiants, sur le concept de mémoire, de transmission, d'aménagement dans une espèce d'espace intermédiaire qui serait un métavers, mais dont la finalité n'est pas le métavers, mais c'est vraiment en fait un espace de rencontre. C'est là, c'est l'occasion également de partager, en fait. C'est vraiment ça. Et la discussion, encore une fois, c'est la rencontre. C'est vraiment ça. C'est que la force des campus, des métiers, des qualifications, c'est de créer des opportunités. Et moi, je me vois plutôt à ce niveau-là comme un facilitateur par rapport à ces éléments. Et en fait, tout était présent et il suffisait en fait de faire se rencontrer ces différents acteurs pour que le projet puisse émerger. Donc, comment ça va se traduire ? Donc, fin septembre, à l'époque de la France Design Week, vous allez pouvoir regarder via votre ordinateur donc, le métavers et le parcourir. Et ensuite, les 4 et 5 novembre, il y aura donc une session de hackathon, donc en fait un défi qui aura lieu donc à Artefix Lille et Artefix Montpellier, parce qu'en fait on associe la région Occitanie et la région des Hauts-de-France. Parce qu'en fait, ma collègue, directrice opérationnelle du campus design et industrie créative en Occitanie, en fait travaille avec moi sur ce projet. Donc c'est là encore, c'est les rencontres, le maillage, tout ça. Et on sera sur un défi sur les villes inondables, c'est-à-dire en fait concevoir des villes qui seront en capacité d'être inondées, mais sans que ce soit en fait problématique. Et donc développer des scénarios par rapport en fait à ce qui pourrait advenir en termes de changement climatique. Donc là, on est clairement sur des connexions. Alors je remercie Thibaut Guillaumont d'Olusion qui... en fait, à apporter des éléments vraiment intéressants sur la réflexion de ce que ça pourrait devenir. À Romain Kalapka d'Artefix, qui est vraiment très, très engagé, comme son directeur Alexandre Pagot. Patricia Vandenberg, qui est donc la proviseure de l'ESAT et présidente du campus. Donc, en fait, toutes ces personnes, qu'elles soient de structures publiques ou privées, travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là aussi la force du réseau du campus, c'est de fédérer des énergies et également des compétences qui rassemblent des établissements qui, au départ, n'étaient pas forcément en contact. Et c'est vraiment le campus qui permet cette mise en relation, cette mise en réseau.
Alors, j'ai vécu un moment intéressant, une journée à Olin, la base nature et loisirs d'Olin, une base départementale. Et donc le département réfléchissait à, ou faisait réfléchir au thème comment envisager le tourisme dans le département du Pas-de-Calais en 2030. Et donc tous les gens qui étaient là, qui étaient très différents les uns des autres, se sont retrouvés en équipe, sans se connaître, de 5-6, à plancher, à définir dans chaque groupe un petit thème et de le développer, de le présenter à la fin. Je trouve que c'était quand même très intéressant de voir la force collective, justement, à partir des réflexions de chacun, comment on pouvait bâtir un scénario de ce qui pouvait arriver et de ce qui pouvait aussi se développer, de voir les enjeux, de la façon de réaliser. Par exemple, on parlait de... On était un peu dans la période où il y a eu beaucoup d'eau qui est tombée dans le Pas-de-Calais, voir comment on peut envisager le tourisme malgré ses risques climatiques d'une certaine manière, et peut-être de trouver de nouvelles opportunités.
Oui, et clairement, le fait d'associer l'école d'architecture et de paysage de Villeneuve-d'Ascq dans cette réflexion, et l'école LENSAM de l'école d'architecture de Montpellier, les formations de design d'espace sur pourquoi, est-ce que demain ce sera donc un avenir lacustre ? Est-ce que ce seront des cités lacustres que nous allons investir avec la montée des eaux, le changement du trait de côte que l'on peut déjà en fait identifier aujourd'hui ? D'ailleurs, il existe différentes initiatives qui vont dans ce sens, hein, qui permettent de comprendre que dans une projection de 5 ans, on aura des transformations considérables du paysage. Et comment on vit avec ? Surtout, c'est la question qu'on peut se poser. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il faut être lucide. Et je pense que le projet que j'évoquais tout à l'heure avec l'ENSI Les Ateliers s'inscrit en fait dans le design de la conception et de la transition. Et nous, en fait, au niveau du campus, on a proposé une réponse, et j'ai essayé de ne pas oublier un mot dans l'appellation, c'est consilience. Comment anticiper l'entropie, la manifestation de l'entropie dans les Hauts-de-France par 6 parcours de formation. Et en fait, on a proposé avec différents établissements, chaque établissement étant porteur d'un projet, justement une formation qui pourrait donc prévenir des dégradations à venir et des transformations à venir. Et comment on pourrait y faire face ?
Alors, c'est vrai que l'avenir se prépare souvent à partir d'une base qui est le passé, des expériences qu'on a pu en déduire, de comment l'homme s'adapte, comment l'environnement se maîtrise. C'est pas toujours simple d'imaginer à 10, 20, 100 ans. C'est pourtant nécessaire.
Oui, et aujourd'hui, en fait, on a vraiment besoin d'un temps long. Être uniquement dans l'immédiateté, ça peut être, comment dire, pertinent quand il s'agit d'un objet très changeant comme l'IA. Chaque jour, en fait, une IA se crée, une application différente arrive sur le marché, et il y a un temps il faut être réactif. Donc là, clairement, en fait, il y a une immédiateté qui est nécessaire. Par contre, on a besoin également d'un temps long pour poser les choses et également pour structurer notre pensée. Si on est uniquement en fait dans un temps court, on risque effectivement de ne pas être en capacité d'installer quelque chose. On sera toujours sur la réaction, et ce qui n'est pas forcément une bonne chose.
Ensuite, Christophe Cellier, il y a aussi que chaque territoire a été marqué par le temps. Il y a encore une empreinte, sûrement, de ses passés, parfois industriels, parfois agricoles. Il y a des mémoires aussi, il y a des livres, il y a des documents qui existent, des photographies, etc. J'ai assisté aussi à un temps extraordinaire de présentation d'une psychanalyse de territoire. Ça se passait à Losangoël, à la base 11-19, là, avec Culture Commune. Et il y a une personne qui fait partie des psychanalystes de territoire. C'est une association qui est basée à Lyon, et lui, il est dans la région, là. Et il a présenté une sorte de document qu'il a construit comme ça, en partant de l'époque préhistorique, géologique, etc., du bassin minier. Et ça faisait vraiment sens, parce qu'il est remonté après à des choses concrètes qu'on connaît encore ou dont on a des traces. Et sans avoir cette image de ce qu'était un bassin de population au travers du temps, il est parfois difficile à la fois de respecter l'environnement culturel et aussi aller de l'avant en tenant compte de ce qui s'est fait avant.
Oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il s'agit déjà dans un premier temps d'observer et d'identifier les initiatives. On ne part pas de zéro, à savoir qu'on est toujours sur un terrain qui a une histoire, qui a connu différents acteurs, différentes structurations, et il faut respecter ça. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que le travail du directeur opérationnel, c'est vraiment celui qui va assembler toutes ces initiatives et leur donner un nouvel élan. par rapport à des projets qui pourraient donc être portés financièrement. Alors pourquoi je parle de l'aspect financier ? Parce que c'est un élément déterminant. Et aujourd'hui, effectivement, on en parle beaucoup dans le contexte du budget.
Ben, disons que c'est le nerf de la guerre et la guerre semblant s'approcher selon ceux qui veulent miser sur l'armement, ça risque de faire un peu perdre à d'autres secteurs.
Alors merci de me donner cette opportunité pour parler d'un autre axe du campus. Donc j'ai parlé de l'image avec le contenu et de travailler sur des contenus qui font sens et qui parlent des problématiques de société. J'ai parlé de l'industrialisation, qui est en fait où le design et l'image sont des leviers d'attractivité des métiers de l'industrie. Donc on pense aussi à l'industrie 4.0, hein, qui peut aussi être abordée. Et là, je peux parler également de l'aspect défense. Alors effectivement, l'aspect défense, là, il faut s'entendre, hein, il faut vraiment être très précis sur ce terme, concerne des innovations technologiques. Aujourd'hui, en fait, quand on vit au quotidien, on utilise des technologies qui viennent de la défense. C'est-à-dire qu'en fait, les téléphones portables, Internet, ce sont des outils qui ont été développés dans le cadre notamment de la guerre froide. Chose qu'on ignore parfois, mais qu'il faut rappeler. Et le principe, c'est de développer une dimension de design tactique. Alors c'est quoi le design tactique ? Le design tactique, c'est pas faire des armes, hein. c'est pas ça, c'est en fait penser à la gestion des crises. Ça peut être des crises climatiques, ça peut être des crises par rapport à venir en aide aux populations, ça peut être des crises sur le fait de trouver un habitat d'urgence. Ça, ce sont des questions en fait qui vont se poser d'une façon... comment dire, très précise, très prioritaire en fait dans les années à venir, voire dans les mois à venir. Et il s'agit de se tenir prêt. C'est-à-dire en fait, j'espère que les choses ne se dégraderont pas, mais il faut toujours être prêt et proposer en fait aux étudiants en design ou en image des possibilités, des scénarios. Et c'est pour cette raison qu'il existe un dispositif initié par Bruno Bonnel, Butterfly 2050, pardon. Butterfly 2050, c'est un projet chaque année qui concerne des scénarios de prospective sur les futurs désirables. Qu'est-ce qui va se passer en 2050? Comment on vivra en 2050? Et souvent, dans les scénarios auxquels j'ai pu assister, en fait, au niveau de la restitution, les étudiants présentent une période compliquée qu'il a fallu surmonter pour arriver à 2050, où effectivement on vit mieux parce qu'on a pris en compte de nos erreurs. Et ce sont des périodes compliquées liées à des problèmes climatiques, à des problèmes géopolitiques. Et ça, c'est vraiment intégré dans la projection des étudiants qui était proposée, en fait. Et moi, je crois qu'il faut vraiment se dire, aujourd'hui, le monde est très complexe, et ça, tout le monde en a conscience, et qu'il ne faut pas, en fait... il faut se préparer en fait à toutes les éventualités, pardon, sans pour autant tomber dans une forme d'anxiété. Et au contraire, il faut être plutôt, comment dire, dans un esprit positif. Voilà.
Être positif à un moment où on sent des lignes de faille, un peu comme l'écorce terrestre, il y a des moments où ça craque, ou des moments où il y a de l'ébullition, bref, où il y a des problèmes quand même qui se posent sérieusement. Là, on est sur des ruptures qui ne sont pas de l'ordre géologique, mais d'ordre d'organisation du monde.
Et c'est là où, en fait, on se rend compte que l'on a... parfois une marge de manœuvre très, très restreinte. C'est-à-dire qu'en fait, quelles que soient nos bonnes volontés, on sera toujours aussi tributaire des décisions qui pourraient venir d'ailleurs. À nous, effectivement, d'anticiper au mieux et de nous y préparer.
Merci Christophe Cellier pour ces explications, ces commentaires, cette prospective sur... le domaine dont tu as la charge. Hein. On va rappeler peut-être, si on veut avoir des infos sur ton établissement, mais plutôt sur ses missions, ses actions.
Oui. Alors, le campus des métiers et des qualifications d'excellence images et design des Hauts-de-France se situe en fait à l'ESSAT, donc à Roubaix. Vous pouvez me joindre par mail, donc christophe.cellier@region-academic-hdf.fr. Moi, je réponds, comment dire, assez rapidement, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a un site qui existe également, qui est hébergé par la région des Hauts-de-France et qui permet de comprendre la démarche du campus. Pour les étudiants qui souhaitent s'engager dans les formations en images et en design, nous allons en fait avoir un forum les 10 et 11 octobre à l'ESAT. Donc le vendredi donc, s'adresse aux classes et le samedi s'adresse aux familles et aux étudiants.
Voilà, et je pense qu'on aura l'occasion de se voir à Louvre-Lens-Vallée pour la Design Week.
Mais complètement.
À bientôt, Christophe.
À bientôt.
Twisted up in Schweizy shrines and you.